Égalité et diversité, paroles libérées, regards transformés. Un podcast de l'instance égalité de la HEPVO.
Bonjour Isabelle Collet, merci de nous accueillir dans ton bureau à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Nous allons donc enregistrer cet épisode qui s'inscrit dans une série spéciale consacrée aux enjeux du numérique sous l'angle de la justice sociale, en mettant en lumière les questions d'égalité hommes-femmes et d'inclusion. Ce podcast est le fruit en fait d'une collaboration entre deux entités de la Haute École Pédagogique, qui est le Bureau de la Durabilité, qui est représenté ici par Clarisse Terrien, qui se présentera tout à l'heure, et puis le Bureau de l'Égalité, dont je suis la déléguée. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Clarisse, qui va, dans un premier temps, t'adresser des questions d'ordre général. Et puis ensuite, j'aborderai quelques questions plus en lien avec la formation des enseignantes et des enseignants.
Bonjour, merci d'être venue dans mon bureau.
Bonjour Isabelle, merci. Je vais commencer par vous présenter très brièvement, donc n'hésitez pas dans votre réponse de peut-être apporter des rectifications. Donc Isabelle Collet, vous êtes professeure à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Vous êtes une spécialiste reconnue dans le domaine de l'éducation et de la formation, avec un parcours en tant qu'informaticienne scientifique de formation et chercheuse en sciences de l'éducation. Vous avez donc consacré une partie de votre carrière à étudier les questions de genre dans les sciences et les technologies, et notamment dans le cadre d'une thèse dont on va aussi vous questionner à ce sujet-là. Et puis, vous êtes également connue pour votre engagement en faveur de la mixité à l'école et de l'égalité des genres dans l'éducation, avec une attention particulière portée à la formation des enseignants et futurs enseignants. Et donc, ma première question va être en lien avec votre parcours. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de votre parcours académique et professionnel, ce qui vous a emmené à vous intéresser aux questions de genre dans l'éducation et la formation, et plus spécifiquement sur les questions du numérique ?
Alors, je fais souvent de l'humour en disant que je suis la seule personne à ne pas avoir trouvé de travail en informatique et en avoir trouvé en sociologie, ce qui est assez peu courant. C'est parce que j'ai commencé effectivement par des études d'informatique et même d'informatique scientifique, traitement du signal 3D, vraiment les choses où il n'y avait pas les filles, quoi. Mais à l'époque, ça ne me préoccupait pas. Déjà, je n'y faisais pas très attention. Et moi, j'ai appris à programmer à 14 ans. Donc, la question de savoir si les filles programmaient ou pas, enfin, c'était même pas un sujet vu que je programmais depuis très longtemps. Et jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à donc la fin de mon bachelor, je me suis posé aucune question en la matière. Et j'étais même la première à dire, les filles, elles ont que l'avenir, hein, moi je suis bien là, y'a qu'à. Conscience féministe aura des pâquerettes. Et puis, il s'est passé que j'ai pas trouvé de travail intéressant. C'est-à-dire, j'ai trouvé du travail un peu, des vacations, c'était pas moi qu'on embauchait. Et c'était une période difficile aussi pour l'informatique. C'est un des rares moments où en France on a débauché, où il n'y avait pas tant que ça de travail. Et puis moi j'étais en province, enfin. Mais au bout d'un moment quand même, je me suis posé des questions parce qu'il y avait bien des hommes qui étaient embauchés et pas moi. Et donc j'ai compris que finalement, le fait d'être une jeune femme mariée en potentialité de faire des enfants devait quand même nuire à ma stabilisation en CDI. Et puis un jour... Avec mon mari, on a déménagé à Paris, alors que j'étais enceinte, je venais juste d'accoucher, donc c'était le moment de redémarrer sur autre chose. Et là, j'ai dit, l'informatique, c'est fini, j'y crois plus, ça marchera pas, je suis pas assez, tout un tas de choses, enfin bref. Et comme j'avais été formatrice en informatique pendant 6 ans, je me suis dit, je vais aller chercher un diplôme de la formation, ça me semblait assez logique. Donc là, il y a eu un premier passage marrant où je suis allée me renseigner sur comment on reprend des études dans le domaine de la formation, où les gens me disaient « Mais vous êtes informaticienne ?» Pourtant, on a l'air de dire « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans... ?» Mais moi, j'y croyais plus du tout. Donc, le hasard a fait que j'habitais à côté de l'université de Nanterre. Et qu'à Nanterre, il y avait un département de sciences de l'éducation. Et je me suis dit « Je vais aller chercher un diplôme de la formation. » Je m'inscris, je fais une espèce de... d'équivalence, parce qu'évidemment, j'avais jamais fait d'études en sciences sociales, mais j'avais un bachelor, certes d'informatique, et une expérience professionnelle, La validation des acquis d'expérience n'existait pas tout à fait, mais on m'a fait une espèce de passerelle. Et donc, je suis arrivée à l'université de Nanterre. Et le hasard a fait que le premier cours que j'ai suivi était donné par Nicole Moscone, qui est une des grandes, grandes références en termes de mixité. C'est la première personne en France à écrire un livre sur les rapports sociaux de sexe en éducation. Où j'avais pris son cours parce que ça s'appelait « Philosophie de l'éducation », je ne connaissais rien à rien, je connaissais le titre, j'avais l'impression de le comprendre. Et elle avait tout un passage sur « Femmes et savoir », « Rapports sociaux de sexe en éducation », et moi j'étais encore sur le stade « Non mais c'est bon, l'égalité on l'a, quoi, il n'y a pas de problème ». Oui, ma mère, elle avait eu des problèmes pour « Non mais moi, c'est bon ». Mais cette personne, donc Nicole Moscone, qui était reconnue à l'université, qui était féministe, ouvertement féministe, et apparemment il n'y a pas de raison d'en avoir honte, qui dirigeait le laboratoire de recherche. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment on peut encore se déclarer féministe aujourd'hui, mais en même temps, elle a une certaine reconnaissance institutionnelle. Alors ça m'a fait réfléchir. Bon, j'ai réfléchi un petit semestre, hein, et puis après, ça y est, j'ai été convaincue, je suis restée tellement j'ai aimé. J'ai fait le master avec Nicole Moscone, je suis rentrée en thèse avec elle, et je suis restée à l'université, cette fois évidemment non plus comme informaticienne, mais en sciences de l'éducation, et j'ai fait ma thèse sur la masculinisation des études d'informatique. Alors j'ai sciemment pris la question à l'envers, et pas la déféminisation des études d'informatique, parce que je m'étais rendu compte que de mon temps, il y avait peu de femmes. Qu'au moment où je faisais ma reprise d'études et mes recherches sur la question, il y avait encore moins de femmes, alors qu'on disait que les femmes arrivent dans tous les domaines et que le temps d'une génération, l'affaire va être réglée. Mais que si je regardais encore avant, il y avait encore moins de femmes. Et donc, mais en comptant les femmes dans les écoles d'ingénieurs en France, je me suis aperçue que leur nombre n'avait pas changé. Il n'y en avait pas tant que ça, mais il n'y en avait toujours pas tant que ça, mais ce qui avait changé, c'était le nombre de garçons. Donc, ce n'était pas un départ des femmes, mais une arrivée massive des garçons. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça la masculinisation des études d'informatique. Et puis, bah, après cette thèse, j'ai essayé de trouver du travail à l'université, et les questions de genre en informatique, ça n'intéressait absolument personne. Je dirais pas mon jury de thèse, hein, je pense que vraiment personne d'autre était intéressé. C'était ni l'académie, ni l'entreprise, personne. Donc j'ai travaillé sur la formation des enseignants parce que j'étais quand même en sciences de l'éducation. J'ai travaillé un peu sur la violence de genre au secondaire. Et puis à ce moment-là, alors que je cherchais désespérément un poste dans une France qui était en train de désarticuler sa formation des enseignants, donc arriver à être des sujets aussi peu consensuels que genre éducation, autant dire, c'était pas le moment d'aller tenter les trucs un peu louches, vous voyez. Et par contre, Genève faisait l'inverse, était en train de constituer sa formation des enseignants du secondaire. Et ils ont publié un poste. Bah, quand j'ai lu la fiche des postes, j'ai dit, eh ben, en fait, c'est moi. Bah ouais, c'est tout moi. Et donc, j'ai postulé et je suis quelqu'un qui a trouvé un poste à l'université sur une petite annonce. Parce qu'en gros, c'est quand même un peu comme ça que ça s'est passé. Mais je salue l'Université de Genève d'avoir été hyper fair-play sur la question parce que c'était un petit poste. Hein, c'était chargé d'enseignement à 75%. Donc, on ne demandait même pas le doctorat. Mais c'était le pied dans la porte, en fait. Et j'étais la seule à postuler qui n'était pas connue, parce que les autres personnes qui ont postulé étaient toutes des personnes, soit de l'Université de Genève, soit de l'Université de Lausanne, qui pour un certain nombre d'entre elles sont devenues mes collègues par la suite. Et moi, personne ne me connaissait. Et donc, la commission a organisé des interviews, des entretiens, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Donc, je suis venue à Genève, passer mon entretien, et en sortant, je suis sortie en me disant « Ah, le poste est pour moi, c'est sûr, il est pour moi, mais je ne suis pas toute seule, et il a été pour moi. » Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2009 à l'Université de Genève.
Merci Isabelle. Et on vous demandait justement, après ces différentes expériences à la suite de votre thèse, vos différents travaux, quel constat vous tirez de vos recherches concernant la représentation des femmes dans le secteur du numérique? Est-ce qu'il y a des secteurs où on observe des évolutions, des stagnations? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
À l'intérieur du numérique, vous voulez dire?
Oui.
C'est très difficile à dire. Okay. J'ai répondu à la même question il y a 10 minutes, en début d'après-midi, à une personne qui me posait des questions sur l'IA. C'est très difficile à dire parce que les rubriques ne sont pas claires. Déjà, le numérique, la rubrique est en soi pas claire. Quand on regarde par exemple les chiffres de la Suisse, qui annoncent une sorte de 18%, mais quand on regarde les chiffres de la Suisse, quand c'est des données qui sont collectées par l'Union européenne, on est plutôt sur 10%. Les 8%, on les a mis où? En fait, c'est toute la difficulté de mettre le périmètre sur ce qu'on appelle les métiers numérisés et les métiers numérisants. C'est-à-dire des métiers qui sont intrinsèquement dans le numérique, avec la maîtrise du numérique. Ce qu'on appelait l'informatique, même si maintenant c'est un peu... Le terme semble un peu ringard. Et puis les métiers fortement impactés par le numérique, mais qui ne sont quand même pas vraiment la technique. Et c'est là que la frontière n'est pas claire. Et puis des fois, on compte aussi les fonctions support du numérique à l'intérieur du numérique. Mais c'est du support. C'est, voilà. Et donc déjà, sur numérique, on a du mal à poser les frontières. Alors à l'intérieur, et en particulier sur l'IA, je ne suis pas sûre qu'on compte uniquement les métiers de l'IA et qu'on n'y intègre pas ce qui est data analyst, où là, il y a toujours eu très classiquement plus de femmes. Il semblerait actuellement que l'IA, parce qu'on parle beaucoup des femmes dans le numérique maintenant, et qu'on parle beaucoup d'IA, serait une branche de pointe qui se féminiserait quand même. Mais je suis obligée de le dire avec précaution, parce qu'au fond... Déjà, le recul sur ces chiffres est tout petit. Hein. On peut avoir cette impression sur cette année et l'an prochain, pas du tout. Et puis, on a du mal, comme on a du mal à poser les frontières, on ne sait pas trop ce qu'on compte. Donc, difficile de répondre de manière sérieuse à la question.
Merci. C'est un peu aussi ce que vous évoquez dans votre ouvrage Les oubliés du numérique. Vous parlez de l'autodéfense intellectuelle qui mobilise la critique, le doute face aux informations qui nous parviennent, et notamment quand il s'agit de chiffres. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette notion elle est particulièrement importante quand on parle de genre et d'égalité? Et justement, quelles sont peut-être les principales croyances erronées en ce qui concerne les femmes et le numérique?
Alors, j'ai commencé à faire de l'autodéfense intellectuelle dans mon cours de bachelor. Parce que je pouvais arriver... Pendant un temps, j'arrivais avec une news trouvée dans la presse de la semaine. Hein. Toutes les semaines, j'arrivais à régénérer un article qui disait... Alors, en gros... On a trouvé la différence entre les hommes et les femmes, blablabla, bla bla. Ah ben non en fait, voilà, pour schématiser en gros l'article. Donc le titre était assez vendeur, voire avec un point d'interrogation, y aurait-il une différence entre gna 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 gna, ah ben non. Bon, je comprends bien le côté attractif, hein, titré sur « il n'y a pas de différence, personne lit l'article », mais en même temps, à force de poser sans arrêt la question, ça met des doutes. Et je prends le problème pour moi, mon premier livre, mon éditeur a proposé de l'appeler « L'informatique a-t-elle un sexe ?» Sur le coup, je n'ai pas réagi. Et en fait, c'est un mauvais titre. Si on pose la question, c'est que la question se pose. Or non, elle ne se pose pas. Elle n'a pas de sexe. Bon. Donc, à force de ramener toutes les semaines des articles comme ça, je me suis dit, bon, on va prendre le truc par l'autre bout. Je vais apprendre à mes étudiants et mes étudiantes à débunker ces articles. Pourquoi? C'est de la science de bazar, voire de la fausse science. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cours d'autodéfense intellectuelle. Alors, mon article préféré en la matière, mais celui-là, il est imbattable. Hein. Il date de 2012, mais je pense que je ne trouverai jamais mieux. C'est un article de vulgarisation scientifique qui titre « Plus les hommes se font le ménage, moins ils ont de rapports sexuels ». Alors là, on a tout dedans. On a la différence hommes-femmes, on parle de sexe. Voilà. C'est vendeur au possible. Et ça vient d'une étude parue dans un journal, à comité de lecture, qui semble tout à fait sérieux. Et puis alors, la première chose qu'on fait avec les étudiants, c'est discuter. Une corrélation, c'est pas une causalité, c'est le principe de base. Notre cerveau a envie de faire des causalités, on a envie de prouver que le monde donne quelque chose. Mais là, plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports sexuels. On peut aussi dire, moins un homme a de rapports sexuels, plus il fait le ménage. À ce moment-là, on a peut-être trouvé un moyen pour que le ménage soit réglé chez soi, vous voyez. Bon. J'ai dit strictement la même chose dans un sens et dans l'autre, mais notre cerveau en tire des conséquences. Et quand on regarde l'article, la première chose à regarder dans un article, c'est l'échantillon. Est-ce que c'est fait sur 12 personnes? Bon, alors dans celui-là, non, l'échantillon est très correct. Mais c'est aussi la première chose à vérifier. J'ai une autre étude sur l'impact du café sur la mémoire chez les hommes et chez les femmes. Quand on décante l'échantillon, on s'aperçoit qu'in fine, il y a moins de 20 hommes et 20 femmes qui permettent de généraliser à la Terre entière. Bon, regardons l'échantillon. Donc là-dessus, l'échantillon est OK. Le truc qui est curieux, c'est que, par exemple, on n'a aucune idée de la satisfaction de ces rapports sexuels. C'est-à-dire ces femmes qui font le ménage chez elles et qui ont des rapports sexuels avec ces hommes, est-ce qu'on leur a demandé leur consentement? Pas sûr, enfin, rien ne nous le dit. Alors peut-être qu'un agencement traditionnel des tâches ménagères implique un agencement traditionnel de la relation de couple. Et puis ensuite, on voit cet article, ces données datent des années 70. Alors il justifie en disant que La répartition des tâches ménagères n'a pas beaucoup changé depuis les années 70, ce qui est vrai. Par contre, l'acceptation de ces répartitions, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas. Eh ben, cette répartition tombait un peu sous le sens. Aujourd'hui, avec presque autant de femmes que d'hommes qui travaillent, cette répartition pose problème. Donc, cet article montre ce qu'il montre. La corrélation, je ne la discute pas. Ce qu'on en déduit, et pourquoi on en déduit, et sur quoi c'est tiré, ça se discute largement. Donc voilà, le genre d'exercice d'autodéfense intellectuelle que je fais avec mes étudiants. Alors, dans les croyances bien aimées, hein, y a celle qui marche toujours, c'est les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, alors que les hommes sont monotâches. Bon, alors, je leur explique d'abord que tout le monde est monotâche, pratiquement, hein, et que s'ils sont en train de mettre à jour leur profil Tinder en écoutant mon cours, l'une des deux tâches tombe, et je pense que ce sera mon cours, hein, je suis assez lucide, mais qu'ils fassent attention quand même à leur date, parce qu'on ne sait jamais. Mais qu'en général, on ne peut pas. On fait du séquentiel rapide. Et pourquoi on croit que les femmes seraient monotâches? Parce qu'il y a eu une étude des années 90 qui, sur la base de l'observation du corps calleux dans le cerveau, a déduit que puisque le corps calleux chez les femmes était plus important que chez les hommes, la communication entre les deux hémisphères se ferait bien. Des cerveaux dans le formol, un cerveau dans le formol n'est pas aussi en forme qu'un cerveau dans la tête de quelqu'un, et puis qu'en plus, quand on prend suffisamment de cerveau, et pas si peu comme dans cette étude-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence de taille. Par contre, le succès de cette étude a été performatif. C'est-à-dire que les femmes disent qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois et s'en vantent, au détriment des hommes qui disent ne peuvent pas voir le faire et s'en excusent. Et ça devient vrai, parce qu'on le croit. Voilà, ça c'était un autre exemple d'idées reçues sur la question.
Merci Isabelle. Je me demandais aussi si vous pouvez nous présenter les... Alors, vous avez déjà dit que non, alors je vais essayer de reformuler en lisant. Mais en tout cas, pourquoi les contributions, en tout cas, des femmes dans le monde du numérique, elles sont souvent négligées ou peu présentes dans la mémoire collective? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'elles l'étaient réellement? Est-ce que c'est d'autres mécanismes?
Alors ça, je peux répondre. Déjà, la contribution des femmes dans tous les domaines est largement sous-estimée. C'est-à-dire, il y a eu des autrices de théâtre au XVIIe siècle qui remplissaient les salles et dont on n'a plus trace. On a eu des musiciennes, Donc ça, la machine à oublier, elle fonctionne très très bien pour les femmes, quel que soit le domaine. En ce qui concerne le numérique, il y a un facteur aggravant. C'est que comme on pense que le progrès est en marche, que le présent occidental serait l'endroit le plus égalitaire et le moment le plus égalitaire qui ait jamais existé, eh ben on suppose que hier est pire qu'aujourd'hui. Donc puisqu'aujourd'hui il y a tellement peu d'informaticiennes, c'est qu'hier il y en avait zéro et c'est même pas la peine d'aller regarder. Donc on va même pas vérifier si par hasard il y en avait vu qu'aujourd'hui il y en a pas. Et quand on regarde hier, on s'aperçoit, alors si on regarde un hier qui n'est pas très vieux, vu qu'il est avant les années 80, on s'aperçoit que les femmes étaient relativement nombreuses en programmation. Et quand on regarde avec plus de détails, on s'aperçoit qu'en programmation, toujours, les femmes ont fait des avancées décisives. Le premier algorithme qui tourne sur une machine, certes mécanique à l'époque, c'est une femme qui l'a écrit, c'est Ada Lovelace, sur la machine mécanique de Charles Babbage. La compilation... c'est une femme qui l'invente, et en même temps, d'ailleurs, elle invente le terme bug pour les erreurs de programme, terme que tout le monde connaît. La première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel, c'est également une femme, c'est Margaret Hamilton, qui a fait avec son équipe le programme d'informatique embarqué pour le module Apollo. Bref, dans la programmation, c'est incontestablement des femmes qui ont fait des progrès décisifs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la programmation? Eh bien parce que c'était considéré comme sans valeur. Le matériel, oui, le matériel, on savait ce que c'était. Il y avait des ingénieurs qui construisaient des machines. Il y avait une tradition d'électroniciens, d'ingénierie, qui avait des hommes qui allaient à l'université faire les études qui allaient bien pour construire des machines. La programmation, pour que ça existe, il fallait préalablement, évidemment, que l'ordinateur soit là pour le programmer. C'était vu comme un sous-produit de la machine. Et donc, ont été engagées des mathématiciennes, nécessairement autodidactes en programmation, vu qu'on l'a inventé en la faisant, mathématiciennes qui étaient éventuellement sous-employées, sous-payées, à programmer ces ordinateurs. Elles ont été vues comme des exécutantes, alors qu'évidemment, pour pouvoir programmer ces machines, il fallait comprendre comment elles marchent. Donc, ce n'était pas si loin de ça des réalités matérielles. Et on avait besoin d'une main-d'œuvre pas chère. Et donc, on avait déjà eu des femmes pour faire des calculs à la main, ce qu'on appelait les calculatrices. Ben, en toute logique, pour aller faire ce sous-métier de l'informatique, on est allé chercher des femmes. Et puis, c'est d'ailleurs Grace Hopper, cette personne qui a inventé la compilation, qui a prophétisé que le logiciel finirait par coûter plus cher que le matériel. Bill Gates et Steve Jobs en sont la preuve. Mais au moment où elle l'a dit, c'était pas évident. Et la programmation a peu à peu pris ses lettres de noblesse. Margaret Hamilton, quand elle a montré que c'était grâce à son logiciel d'informatique embarqué que le module s'est posé parce qu'il a intercepté l'erreur des astronautes, quand même, ça marque, quoi. Et on s'est mis à former à la programmation dans les universités, mais dans quelles universités ? Celles de sciences, où il y avait déjà les hommes. Donc on a formé les hommes en programmation sur des carrières d'ingénieurs. Et puis, alors il y a eu un livre qui a été écrit au Royaume-Uni qui s'appelle Program Inequality, qui montre bien l'arrivée des hommes diplômés dans les sociétés d'informatique où il y avait des femmes autodidactes. Et soit ils sont devenus directement leurs chefs parce qu'ils avaient un diplôme supérieur, et elles sont parties. Soit elles les ont formées, puis ils sont devenus leurs chefs et elles sont parties. Et ça a masculinisé une profession. Et le livre en conclut qu'un des retards qu'a pris le Royaume-Uni dans le domaine de la programmation et de l'informatique est dû à cette perte de savoir qui s'est enfuie quand les hommes sont mis à prendre possession, fraîchement nommés et formés, sont mis à prendre possession des études, des métiers.
Merci. Pardon, je suis un peu malade. Donc si je comprends bien cette, en tout cas, supposée croyance de non-présence féminine, en tout cas, elle n'est pas juste en tout temps. Et c'est assez intéressant dans votre livre, puisqu'elle vous dit aussi qu'elle n'est pas juste en tout lieu. Et vous prenez l'exemple de la Malaisie, notamment. Est-ce que vous pouvez nous illustrer cet exemple-là que j'ai trouvé notamment assez intéressant ?
Alors effectivement, c'est le deuxième volet, c'est-à-dire le présent occidental. Ben, ni le présent, ni l'Occident n'est forcément l'endroit où on constate le plus d'égalité. Alors l'article que je cite souvent, qui est écrit par des chercheuses norvégiennes, où elle se demande en intro avec humour, est-ce que la Malaisie serait le paradis cyberféministe qu'on n'aurait pas découvert ? Alors, non, c'est pas ça. Hein. J'ai rencontré d'ailleurs à l'époque Viviane Lagensen, qui avait un grand souvenir de son passage en Malaisie. Elle explique bien que faire l'informatique en Malaisie, c'est un choix genré. C'est parce que c'est un bon métier de femme. Alors, pourquoi c'est un bon métier de femme ? Parce que, c'est un métier du tertiaire. C'est pas l'industrie qui est quand même plus stéréotypée masculin, c'est un métier qu'on peut effectuer de chez soi, en gardant ses enfants ou en gardant ses parents âgés. Et puis plus l'informatique est théorique, plus il est féminin, ce qui est complètement à l'encontre de ce qu'on pense en Occident, parce que ça permet de rester à distance du monde, à distance des hommes en particulier, rester chez soi. Donc un parfait métier pour les femmes. Par ailleurs, pas besoin de force physique, pas un métier salissant, pas un métier dangereux, c'est un métier de femme. Et là, on comprend que finalement, on reconnaît le sexe d'un métier au sexe des personnes qui les exercent. Il n'y a pas plus de rationalité que ça. Parce que si on prend un métier où on porte de lourdes charges, où on travaille la nuit et les week-ends, ou qui est dangereux, et on a la vie des gens entre ses mains, c'est les soins infirmiers, qui est donc un vrai métier d'homme. Ah ben non, en fait.
Merci. Et quel recul critique on peut avoir sur les bonnes pratiques actuelles et sur le réel impact pour compenser les inégalités actuelles, aussi notamment dans le monde du numérique ? Donc voilà, on pense au rôle modèle, lutte contre les stéréotypes, peindre les techs en rose.
Bon, très clairement, si ça marchait, on s'en serait déjà rendu compte. Hein, voilà. Depuis le temps qu'on est sur le coup, manifestement, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, mais ça veut juste dire que manifestement, ça ne suffit pas. L'essentiel des bonnes pratiques qui sont faites actuellement cible la population discriminée, c'est-à-dire les femmes. Donc on est en gros en train de dire que la population discriminée participe à cette discrimination. C'est quand même super pour se dégager de ces problèmes quand on est ou un groupe dominant ou une institution. Alors par exemple, la lutte contre les stéréotypes. Évidemment, si vous pensez qu'avec votre cerveau rose féminin, vous êtes incapable de comprendre les maths et les sciences, ça ne marchera pas. Donc, il est important de dénoncer les stéréotypes pour ce qu'ils sont, de pure construction sociale. On va dire que c'est la bride de base. Par contre, penser que ça suffit, ah non, ça c'est de la pensée magique, ça ne suffit pas. De même que penser que les stéréotypes appartiennent tous au passé et qu'on n'en construit plus du tout. Et que donc, une fois qu'on se sera débarrassé des stéréotypes du passé, ben, nous entrerons dans un avenir déstéréotypé et magnifiquement égalitaire. Ça non plus, ça ne marche pas. Alors pour l'informatique, c'est très net, vu qu'on a pensé jusqu'aux années 80, en gros, que la programmation était finalement un métier assez mixte, voire assez féminin. D'ailleurs, il y a des livres féministes des années 80 qui expliquent que la programmation, c'est l'avenir de l'emploi féminin, parce que comme il n'y a pas de tradition industrielle construite, eh ben, elles vont faire toute leur place. Mais ça se tenait à l'époque. Sauf qu'entre-temps, la programmation a pris de la valeur. Chaque fois qu'un métier prend de la valeur dans le monde social, il se masculinise. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand il perd de la valeur, il se féminise. Donc les métiers de l'informatique et de la programmation prennent énormément de valeur. Les hommes arrivent en masse, délaissant d'autres métiers qui perdent de la valeur en entrant massivement en informatique. Et là, le stéréotype qu'on avait préalablement qui disait « la programmation, c'est bien pour les femmes parce que c'est un métier minutieux, c'est un métier autour du langage » et puis surtout l'argument extraordinaire qu'on trouve dans un magazine féminin. « Mesdames, si vous savez programmer un dîner, vous savez programmer un ordinateur, ne cherchez pas, c'est idiot, ça n'a aucun sens. » Mais les stéréotypes, ça n'a pas forcément besoin d'avoir du sens pour tenir debout. Donc, ces arguments-là, on les jette, puisque manifestement, les hommes sont nombreux. Et ça devient, après les années 90, l'informatique, c'est de la logique, c'est du rapport à la machine, c'est des maths, et donc, c'est masculin. Donc, on refabrique des stéréotypes en aval d'une situation. C'est-à-dire, ils sont là pour rationaliser une inégalité déjà là, pour éviter de prononcer les mots discrimination, égalité, etc. Donc, déconstruire les stéréotypes, c'est utile. Penser qu'il va suffire de les exposer pour qu'ils ne soient pas actifs, ben non, parce qu'on attaque la conséquence et pas la cause. Alors, c'est toujours bien de dénoncer les conséquences, mais comme les mauvaises herbes, ça va repousser sans arrêt. Et en plus, on sait que la menace du stéréotype, c'est-à-dire le fait que le stéréotype vous empêche de performer, eh ben, il ne suffit pas de ne pas croire dans le stéréotype pour annuler la menace. C'est-à-dire, on a testé sur des jeunes femmes, elles ne croyaient pas que les garçons étaient meilleurs en maths qu'elles, que les garçons avaient la bosse des maths, que les filles intrinsèquement... Bref, elles ne croyaient pas dans le stéréotype sur les filles et les maths, mais quand on l'activait, leur performance baissait autant que les personnes qui y croyaient. Donc, on a beau savoir que ce n'est pas vrai, le fait que votre entourage a un stéréotype sur votre groupe social vous empêche de performer. Donc, OK, il faut attaquer les stéréotypes, mais pensez comme parfois... les départements de l'instruction publique ou l'éducation nationale en France pensaient qu'on va lutter contre les stéréotypes et on va régler le problème, bah non, c'est largement insuffisant. Les rôles modèles, alors très bien les rôles modèles, à condition que ce soit des rôles modèles crédibles, proches. L'anti-rôle modèle, c'est par exemple Marie Curie. Les filles peuvent faire de la physique parce qu'il y a Marie Curie. Marie Curie, c'est deux prix Nobel. Comment se projeter dans Marie Curie quand on a 14 ans, moi plus tard quand je serai grande de prix Nobel, c'est quand même loin le chemin quoi. Parler de Marie Curie sans arrêt, c'est dire alors si t'es hyper excellente, ouais, il y a une place pour les femmes. Si t'es juste normale, ah bah non, trop bête, parce que c'est Marie Curie ou rien. Marie Curie, l'exception qui confirme la règle. Donc des rôles modèles, il faut en mettre à tous les étages. Einstein non plus, il n'est pas accessible pour les garçons. Mais il n'y a pas que Einstein, il y a foule de gens à différents niveaux. Donc il faut que les rôles modèles soient plausibles, accessibles, et qu'ils ne soient pas trop loin non plus, par exemple, des étudiantes pour des lycéennes, des femmes en emploi pour des jeunes filles qui sortent de l'école. Voilà, pas trop loin pour qu'on puisse se dire l'étape d'après, ça peut être moi. Par contre, ce qu'on a vu sur les rôles modèles, pour avoir fait une revue de la littérature, ça marche surtout pour encourager les femmes dont c'est déjà le choix. C'est-à-dire elles ont envie de faire des sciences et il faut soutenir cette envie parce qu'il y a tellement de signaux qui pourraient les en écarter. Il est nécessaire de soutenir. Et là, les rôles modèles, ça marche. Je me rêve scientifique. Ah, je vois que c'est possible. Je maintiens mon choix. Ça ne réoriente pas. Ça ne dit pas ah ben en fait, c'est possible, mais j'y pensais pas. Voilà, ça ne sert pas à ça. Et puis surtout, les rôles modèles, c'est mettre la responsabilité de l'orientation sur les personnes qui ont déjà des problèmes avec ces orientations. C'est-à-dire, quand on dit aux femmes d'entreprise, allez dans les écoles, diffuser la bonne parole auprès des filles, bien sûr, vous avez envie de le faire, vous êtes une femme, donc forcément. Et pendant ce temps, qui va faire mon boulot? Est-ce que ça va compter sur mon évaluation annuelle? Je suis défrayée quand je fais ça? Ben, la réponse est en général non, non, et puis non plus. Hein, voilà. Alors, mettre la responsabilité du changement sur les personnes qui en souffrent. Alors oui, stratégiquement, pour toucher à rien, c'est super, hein, mais ça ne va évidemment pas suffire. Donc, si vous êtes une organisation de femmes scientifiques, c'est votre place, c'est là où vous pouvez faire quelque chose. Si vous êtes une institution, se reposer sur les membres discriminés de son institution, c'est quand même pauvre. Donc, il faut faire des actions à destination du public, ciblées, les femmes ou les filles, mais il faut aussi et surtout faire des actions pour réformer le système. C'est ce que les anglo-saxons appellent « fix the system, not the women ». Ok, sur les femmes, on fait plein de choses. Mais à force de faire plein de choses, les femmes vont finir par se dire « Alors, j'ai bénéficié de tout ça, le mentorat, et j'y arrive toujours pas. Bon, bah, c'est moi, donc. » Non, non, c'est pas toi. C'est le système. Le système, il essaye que tu sois encore plus excellente, mais lui, il bouge pas. Alors là, maintenant, on est vraiment à un stade, si on veut embrayer les choses, où les institutions de formation, de tous les niveaux, et les entreprises doivent prendre leur part et faire en sorte de se poser la question sur pourquoi un public aussi compétent à l'école et aussi motivé ne vienne pas chez eux.
Merci. Et vous donnez l'exemple d'ailleurs où finalement on allait parfois aussi justifier l'écart salarial par la difficulté pour les femmes d'aller négocier une hausse salariale. Et donc, s'en suit parfois des pratiques où on met en place des formations en négociation. Et en fait, si on regarde un petit peu de plus près, vous soulignez, et volontiers pour après reformuler, hein, si j'ai des approximations, vous donc montrez que, enfin, en tout cas, vous précisez que les moyens utilisés par les femmes et par les hommes pour négocier leur salaire étaient en fait le même. Et que c'est plutôt le résultat et donc les choix des institutions qui sont différents.
Alors, ça a certainement été vrai. Je veux dire, les premières études qui ont été faites sur la question dans les années 90, qui montraient que les femmes savaient moins bien négocier leur salaire que les hommes, je suis prête à croire que c'était vrai. Quand même, les rapports hommes-femmes et la façon dont on élève des filles a un peu changé depuis les années 90, et je suis prête à entendre qu'à cette époque-là, les femmes négociaient moins bien. Et puis aussi, ce qui était montré, c'est que ça les embarrassait de gagner plus, que ça allait faire de la peine soit à leur conjoint, soit à leurs collègues, et que donc, elles préféraient rester en retrait. Ok. Bon, mais aujourd'hui, on a un certain nombre d'études dans des endroits aussi différents que l'Australie ou l'ouest de la France, donc enfin, un certain nombre d'études, pas forcément sur toutes les professions, mais tout de même, qui montrent que les femmes demandent autant que les hommes, ou aussi peu, hein, je dirais aussi des hommes qui se réfrènent, mais que globalement, elles demandent aussi souvent et autant, juste, elles ont moins. Parce qu'en face, les employeurs, hommes ou femmes d'ailleurs, n'ont pas bougé. Les hommes, quand ils demandent des augmentations, ben, ils demandent des augmentations, et les femmes, non mais quand même, pour qui elles se prennent ? Est-ce qu'elles ont vraiment atteint les objectifs ? Donc, ce n'est pas uniquement en termes de présentation, de mise en avant de sa réussite, c'est qu'elles sont moins prises au sérieux. Alors oui, quand on leur fait du coaching pour aller négocier, en fait, on leur dit « travaille plus pour gagner autant. Sois plus excellente pour avoir autant. » C'est un peu de l'arnaque, hein, faut bien le reconnaître.
Merci. Et ma dernière question, désolée, j'en ai posé d'autres, mais c'est vrai, comme c'est passionnant. Ma dernière question était... Donc moi, je suis chargée de mission durabilité et on réfléchit aussi aux questions de numérique responsable et donc aux enjeux du numérique, les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, on se demandait, est-ce que les femmes, elles ont un rôle à jouer aussi dans les enjeux du numérique responsable ou est-ce que ce serait encore, pourquoi pas, les essentialiser de nouveau ?
Celle-là, je l'ai vue dans la liste, la question. Ça, c'est quand même la question à 10 points, surtout qu'en plus, j'y connais pas grand-chose en quoi que ce soit responsable. Non pas je juge que c'est pas inintéressant, mais c'est pas là-dessus que je fais les recherches. Mais il est vrai... Alors, je vais vous raconter un souvenir assez ancien maintenant. C'était mon premier colloque féministe. C'était un colloque féministe international qui se passait à Toulouse en 2001, quelque chose comme ça. Je viens présenter un truc sur les femmes et le numérique, déjà. Et là, je me fais tomber dessus par une collègue féministe, écoféministe, en me disant que les femmes ont bien raison de ne pas aller en informatique, parce que l'informatique, c'est le complexe militaro-industriel, que c'est le mal incarné, que ça, que c'est polluant, que ça, là, et qu'il ne faut pas qu'elles y aillent. Alors moi, qui pensais que toutes les féministes étaient solidaires et s'aimaient toutes les unes les autres, j'étais jeune, hein, on me pardonnera, un, autant pour moi, et deux, moi je lui réponds, on a quand même un espace de pouvoir dont vous voulez que les femmes aillent pas, pour des raisons qu'on peut défendre, hein. Mais moi je préfère qu'elles aillent dans toutes les places de pouvoir. Je suis pour que l'accès aux séminaires et aux prêtres soit mixte, même si je n'adhère pas particulièrement à la logique du Vatican, quoi. Bon. Et on s'est quitté avec beaucoup d'incompréhension, elle et moi. Et à partir de là, j'ai été pendant un temps assez résistante au discours qui associait femmes et environnement. Parce que je me disais, l'environnement... C'est pas important, on va le confier aux femmes. Si c'est les femmes qui le font, ce sera donc pas important. Vous voyez, ça va se mordre la queue. Et puis en plus, on va l'essentialiser. c'est-à-dire les femmes, comme elles donnent la vie. Alors je rappelle quand même pour tout le monde que pour donner la vie, il faut être deux. Hein, les femmes toutes seules, ça ne fonctionne pas, mais les femmes, comme elles donnent la vie, elles seraient plus attentives. Et on va les ramener à une soi-disant nature féminine. Et puis voilà, et puis en même temps, ça permettra de considérer que l'écologie, c'est un truc de bonne femme. Bon, néanmoins, néanmoins, la socialisation respective des hommes et des femmes fait que on apprend aux femmes à prendre soin des autres, prendre soin de leur environnement, se préoccuper de, d'enjeux qui ne sont pas que des enjeux court terme, et on leur apprend aussi à moins chercher le profit ou la rentabilité. C'est de la socialisation, mais elle existe. Donc, si les femmes, grâce à leur socialisation, peuvent essaimer un petit peu ces idées qui, à mon avis, peuvent être enseignées à tout le monde, et que ce serait très très bien pour un environnement pour tout le monde, pour le coup, tant mieux, je veux dire. Après, il faut rester vigilant. À mon avis, actuellement, le danger principal, c'est de continuer à dire « l'écologie, c'est une affaire de femmes, donc on va faire maintenant les vraies choses importantes entre mecs ». Ça, ça reste un vrai danger et c'est problématique. Il y a aussi un renouveau du mouvement Wicca, spirituel, sorcière, que je trouve totalement insupportable, qui associerait les femmes à la nature essentiellement féminine et que c'est pour ça. Bon, là, on ne progresse toujours pas. Hein. Bon, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait sur la question trans dans le Wicca, ce qui est quand même quelque chose qui est un peu un défi. C'est-à-dire des personnes trans qui adhèrent à ces deux principes importants qui sont la mère nature et le père qui a le pouvoir de vie. Enfin, c'est assez curieux. Mais donc, il y a des dérives essentialisantes problématiques et des dérives politiques problématiques. Par ailleurs, je crois à l'importance d'avoir des groupes de femmes pour se retrouver entre populations qui partagent un vécu de personnes qui sont minorisées dans la société, que ce vécu puisse permettre d'avoir un autre regard sur la consommation des ressources, l'exploitation de la planète, c'est complètement plausible. Donc je pense qu'il y a effectivement un intérêt à associer le care, de manière générale, le féminisme et l'environnement, avec toutes ces choses trappes, mais en même temps des choses trappes, on en a partout, hein. Donc finalement, ni plus ni moins, pourquoi pas.
Merci Isabelle Coy.
Voilà, donc on a beaucoup évoqué la division sexuée ou socio-sexuée des métiers. Moi, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser à ce qui se passe en amont, à l'école, et mentionner peut-être en quelques mots la socialisation qui est à l'œuvre et qui tend justement à rendre les savoirs sexués. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dans la perspective du moment de l'orientation, justement, l'orientation tant scolaire que professionnelle?
Alors, il y a une croyance amusante à ce sujet, assez fréquente, qui est ça va beaucoup mieux. Alors, on peut toujours se demander par rapport à quand, hein, et à quoi, mais que globalement, l'affaire sera à peu près réglée. Et là encore, on me le ressort, l'espace d'une génération. Alors moi, ça fait à peu près une génération que je travaille là-dessus. On m'a dit ça au début, on me dit ça maintenant. On sent que ça ne va pas être comme ça. Mais en fait, il y a des études qui se font toujours. Il faut regarder les choses en face. On voit qu'il y a toujours cette socialisation sexuée. Alors évidemment, c'est intéressant. Ce qu'on a fait dans les années 70, c'est bien de refaire les études. Il est évident que les rôles des hommes et des femmes ne sont plus les mêmes depuis les années 70 et qu'il faut voir comment ça s'est recomposé. Mais il y a une étude tout à fait récente de 2017 qui est faite par des psychologues sur un échantillon de 500 enfants. Donc on commence à avoir des échantillons qui tiennent la route, où ils racontent à des enfants de 5, 6, 7 ans une histoire, et dans cette histoire, on parle d'un enfant qui est très 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 intelligent. Et à la fin de l'histoire, on demande aux enfants si cet enfant très 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 intelligent, c'est un garçon ou une fille. À 5 ans, préférence pour l'intragroupe. Les filles disent c'est une fille, les garçons disent c'est un garçon. En même temps, se mettre à la place d'eux, c'est pas encore complètement acquis à cet âge-là. Donc en toute logique, de qui on parle d'eux. Et vers 6-7 ans, c'est moins clair. Les garçons maintiennent, c'est un garçon. Mais un nombre significatif de filles commence à dire que cet enfant très très intelligent, eh bien, ça doit être un garçon. Donc, on intériorise bien quelque chose qui n'était pas là avant, donc qui n'était pas là de naissance. Les filles ont un complexe d'infériorité inné, en quelque sorte. Et puis, toujours dans cette étude, on présente deux jeux. Un jeu qu'aiment faire les enfants très, très, très intelligents et un jeu qu'aiment faire les enfants qui font beaucoup d'efforts. 5 ans, distribution aléatoire entre les deux jeux, entre les garçons et les filles. 6-7 ans, qui correspond d'ailleurs à l'âge auquel on rentre à l'école. Hein. 6-7 ans, significativement, les filles se désintéressent du jeu pour enfants très très intelligents. Et là, on en tape sur le clou pour l'école, c'est que quand on demande ensuite aux enfants, et cet enfant qui a de très très bonnes notes, c'est un garçon ou une fille? Ah ben c'est une fille. Ce qui veut dire qu'un enfant très très intelligent n'est pas nécessairement un enfant qui a de bonnes notes. Et qu'avoir des bonnes notes n'est pas un gage d'intelligence. Ce qui permet d'expliquer pourquoi les filles peuvent avoir de très bonnes notes tout au long de leur scolarité et éventuellement jusqu'au bout et pour autant avoir une piètre opinion de leurs compétences. Et ça, c'est effectivement ce qu'on voit là, donc qui bascule entre 5, 6 et 7 ans, l'entrée à l'école. Alors, je ne fais pas d'inférence, hein. Je ne sais pas si c'est l'entrée à l'école qui fait ça ou la socialisation primaire qui fait qu'à l'école, on obtient ça. J'en ai aucune idée. Mais le fait est, ça s'installe au moment de l'orientation, à note équivalente, et en particulier dans les disciplines connotées masculines, les maths, la physique, etc., à note équivalente, les filles s'imaginent ayant moins de potentiel que les garçons. Et ce jeu est partagé par les enseignants. Et tout cela, évidemment, se passe de façon complètement inconsciente. C'est-à-dire, Marie Durubella dit « Les garçons sont vus comme des sous-réalisateurs brillants. » Ce qui, en clair, veut dire « Ils ne bossent pas beaucoup, mais ils ont un potentiel de fou. » Et puis, un jour, ce potentiel se révélera. Alors que les filles font tout ce qu'elles peuvent. Bon, moi, j'avais une fois discuté avec des filles en école d'ingénieurs en France, donc une grande école d'ingénieurs en France, et je leur demande « Mais quand vous étiez au lycée, vous faisiez tout ce que vous pouviez ?»« Ben non, c'était plutôt facile, voilà. » Et vous allez dire à votre enseignante que vous ne faisiez pas tout ce que vous pouvez? Ben non, on les laisse tranquilles. On présuppose qu'elles font de leur mieux, donc on les laisse tranquilles. Alors que les garçons, qui en plus ont une attitude particulièrement dégagée par rapport aux études, parce que être trop impliqué, c'est pas viril, c'est la meilleure façon pour se faire traiter de pédé, en clair, donc il faut vous montrer un peu de désinvolture, voire en mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui, en interview, disent... qui diminuent sciemment leur performance, voire qui font exprès de ne pas travailler, pour ne pas être trop bons et pour s'acheter la paix sociale. Donc ce n'est pas faux que certains d'entre eux ont réellement un potentiel. Mais comme les filles, elles, jouent le jeu, sans être forcément dupes elles-mêmes, mais jouent le jeu de comment je dois me tenir à l'école, jouent le jeu scolaire, eh ben on estime qu'elles font de leur mieux, puisqu'on dit à tout le monde qu'il faut faire de son mieux et qu'il faut travailler. Donc à l'arrivée, les filles sont vues comme au max de leurs possibilités. Ce qui fait que si à un moment donné, il y a un échec qui se produit, bah, ça semble être la révélation du fait qu'elles sont max. Alors que les garçons, comme ils sont vus toujours à potentiel, eh ben, on a toujours un espoir. Alors le problème du potentiel, c'est que certains garçons vivent dans un espèce de sentiment d'imposture permanente parce que si le jour où ils s'y mettent, il ne se passe rien. Eh ben, alors ça veut dire quoi? Eh ben, tout ce potentiel qu'on construit devant eux s'effondre. Vaut mieux jamais s'y mettre. Pour jamais aller vérifier. Et ça, c'est la pente savonneuse du décrochage scolaire.
Merci beaucoup. En fait, tu pointes là l'effet système, on va dire, hein, tant pour les filles que pour les garçons. Donc, on répond à des attentes qui sont différenciées. Les adultes qui gravitent autour d'elles et autour d'eux sont également, de manière non consciente, souvent à leur insu, aux prises avec ces attentes différenciées. Mais comment on va s'en sortir? Comment on peut former le corps enseignant pour permettre peut-être aux enseignantes et aux enseignants d'être davantage conscients et conscientes des phénomènes qui sont en présence? Et puis, quelles sont les pistes d'action? Comment on peut se positionner pour aider finalement ces élèves à être dans une quête d'eux-mêmes davantage que d'être sous la pression sociale?
Alors, tu as donné la réponse dans la question. Je suis en sciences de l'éducation, je peux être que d'accord. Il faut former les enseignants et les enseignantes de manière obligatoire et évaluée à la question de l'égalité et du genre en éducation. Bon, je répète ça sans arrêt chaque fois qu'on me pose la question, parce que quand même, le nœud, il est là. C'est-à-dire, bien sûr, c'est intéressant d'éduquer les élèves à l'égalité, c'est-à-dire le seul truc qui est dans le plan d'études roman, hein, à un moment donné, encore, en allant lire dans le détail. Avec finesse, on peut trouver qu'il faut éduquer les élèves à l'égalité parce que le plan d'études roman dit que c'est par des situations d'iniquité entre élèves qu'on a des problèmes de stéréotypes à l'école. Ça, c'est quand même comment l'institution se débarrasse du problème en disant « Ouh, les élèves sont tous stéréotypés, le problème, il est là. » Bon, évidemment, c'est plus large que ça. Donc, il faut absolument former les enseignants et les enseignantes de manière obligatoire et évaluée sur ces questions. Et il faut les former avec des formateurs et des formatrices réellement compétentes, un, en genre en éducation et en formation des enseignants et des enseignantes. Parce que former ce personnel-là, enfin ce public-là, c'est pas si simple. Enfin, toutes les personnes qui sont en formation d'enseignantes, enseignantes voient très bien de quoi je parle. C'est pas si simple parce que on peut, je pense à une collègue qui travaille sur le genre en histoire en France et qui forme des enseignants d'histoire en France et qui leur fait un cours sur la place des femmes dans l'histoire. Super! Et la première chose qu'on peut lui dire, c'est « Moi, demain, dans ma classe, je fais quoi ?» Parce que, OK, ils peuvent être absolument passionnés sur comment on a oublié les femmes dans l'histoire, ça ne leur dit pas nécessairement comment on va transformer les cours d'histoire, en particulier avec les moyens d'études qu'on a, qui sont pas... qui pourraient être vus, pour faire en sorte que d'avoir une histoire qui incite les élèves à se poser des questions sur comment l'histoire officielle est construite. Donc, il ne suffit pas de donner des infos, il faut donner des gestes professionnels, il faut donner de la pratique, avec des personnes qui vous disent « Oui, mais alors moi, demain, dans ma classe, je fais quand même le programme, je fais le plan d'études roman, je ne peux pas passer mon temps à faire de l'éducation à l'égalité. » Ça tombe bien, ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de revoir tout votre programme avec un regard de pédagogie critique. Alors ouais, c'est compliqué. Alors, il vaut mieux l'avoir en formation initiale. On se rend compte que quand on l'a eu en formation initiale, c'est plus durable et c'est plus facile pour les enseignants et les enseignantes ensuite de le poursuivre en formation continue, parce que des outils, il y en a. Il y a un outil très bien qui s'appelle l'école de l'égalité, qui est publié par les bureaux de l'étude, les bureaux de l'égalité roman, qui aide beaucoup les enseignants et les enseignantes qui n'ont pas que ça à faire, à réécrire des exercices et des activités, etc., sans la formation en amont qui permet de complètement comprendre où se nichent ces moyens complémentaires, eh ben, on met des scotchs. Alors, on explique, il y a des paragraphes introductifs, mais ça ne suffit pas. Donc, une vraie formation suffisamment longue, c'est-à-dire pas une matinée, hein, une vraie formation suffisamment longue pour que les enseignants et les enseignantes comprennent déjà la dynamique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire le réalisent. Alors, moi, j'ai de la chance, dans le canton de Genève, je fais ça depuis suffisamment longtemps pour que les enseignants et les enseignantes savent qu'il y a un problème. C'est déjà pas mal, parce que si on pense qu'il n'y a pas de problème, bah on ne va pas chercher de solution, c'est logique. Donc quand ils arrivent, et quand elles arrivent dans mes cours, que ce soit obligatoire ou facultatif, ils savent qu'ils ont un problème et que c'est encore un sujet de formation. C'est déjà ça. Mais souvent, ils se disent « mais pas nous ». Enfin, je veux dire, le monde, la société, tout ça, on va devoir ramer contre tous ces messages, mais sinon, nous, globalement, on fait un peu tout bien, quoi. Donc il faut les amener à réaliser que, un, s'ils font rien, bah, l'école est sexiste par abstention, ça c'est encore ce que dit Marie Durubella. Donc s'ils font rien, c'est pas qu'ils sont équitables ou qu'ils traitent tout le monde pareil, c'est qu'ils laissent les stéréotypes de la société rentrer et faire leur travail inégalitaire. Et que donc il faut faire quelque chose, et pour pouvoir faire quelque chose, il faut identifier les endroits où on fait quelque chose. Alors moi j'ai conçu un modèle qui s'appelle la toile de l'égalité, sur laquelle je suis en train de faire un MOOC qui devrait sortir... si on travaille bien, si on est dans les temps, qui devrait sortir en septembre prochain, qui est ben, un modèle qu'on peut utiliser à la fois en observation de ses classes et à la fois en construction d'activités, qui permet de revoir sa pratique enseignante avec un regard de pédagogie critique et égalitaire. Je l'oriente plutôt genre, parce que c'est mon domaine, mais en fait, ça fonctionne pour tous les rapports sociaux, les rapports de classe, les rapports ethno-raciaux, etc., etc.
Exactement, et moi, je vous encourage toutes et tous à aller lire ton ouvrage, hein, les oubliés du numérique, mais il y a également des articles qui présentent cette toile de l'égalité comme un moyen, finalement, d'adopter une approche intersectionnelle, hein, où on puisse véritablement prendre la mesure de ces croisements entre les différentes facettes d'inégalité qui s'entrecroisent véritablement. Merci beaucoup en tout cas pour cette contribution. Est-ce que Clarisse, tu as envie d'ajouter une question, peut-être en lien avec le numérique
Oui. Je regarde aussi un petit peu si on a parcouru notre trame, parce qu'on en avait une, bien sûr. Oui, de manière plus générale, pour ouvrir le débat, peut-être quels sont, selon vous, les défis et les opportunités pour une éducation plus égalitaire et plus individuelle, mais à l'ère du numérique, peut-être avec ce prisme-là, un peu plus spécifiquement.
Ok. Donc, ouais. Vous avez dit individuel et là, je tiquais. Mais c'est inclusif que vous vouliez dire. Voilà.
Peut-être.
Voilà. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir des actions courageuses. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses et comme je disais tout à l'heure, si c'est suffisant, on s'en serait déjà rendu compte. Il faut passer à une vitesse supérieure et oser, par exemple, de temps en temps, au bout d'un moment, dans la conversation, on me demande « Et les quotas, vous en pensez quoi ?» Alors c'est déjà un gros progrès, parce qu'avant, c'était tellement un gros mot qu'on ne posait même pas la question. De toute façon, le cerveau des gens s'arrêtait, le mot « quota » avait été prononcé, on ne pouvait plus rien entendre. Maintenant on pose la question, c'est déjà un grand progrès. Le quota, ce qu'on lui reproche souvent, c'est deux choses. D'une part, ça ferait venir des femmes pas aussi compétentes que les hommes, et donc ça prendrait la place d'hommes compétents. Bon, déjà, on présuppose qu'on aurait des femmes moins compétentes, mais bref, passons. Et d'autre part, les femmes se sentent vexées d'être prises par quota et pas pour leur vraie valeur. Alors là-dessus, il faut être très clair. Moi, je préfère être prise parce que je suis une femme que pas prise parce que je suis une femme. Parce que moi, je suis là. Et à moi de montrer que je suis compétente. Ensuite, moi je suis très à l'aise là-dessus parce que un jour j'ai réalisé que j'étais une informaticienne quota. Alors, au moment où je l'ai réalisé, ça m'a vexée. Enfin, j'étais complètement dans cette position-là et donc j'ai supposé que les autres de ma promo l'étaient, mais moi pas. On se protège comme on peut. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça n'avait absolument aucune importance. C'est-à-dire qu'on était donc quatre filles. On a été là parce qu'il y avait eu un coup de pouce à la sélection des dossiers, parce qu'il y avait une vraie volonté de faire un petit peu de mixité dans la filière, mais on n'est pas sortis les quatre en queue de promo. On est sortis quelque part au milieu de la promo. On avait complètement notre place dans cette formation. Penser que à la cinquième décimale près, la moyenne va être prédictive de la carrière scolaire de la personne jusqu'à la fin de ses études universitaires, c'est quand même n'importe quoi. Par contre, prendre acte qu'il y a une censure sociale qui s'exerce sur les femmes tout du long, qui fait qu'au moment de postuler à un certain niveau, un, il y en a peu, deux, elles risquent d'être moins bonnes ou moins tenaces pour postuler parce qu'on a laminé leur confiance en elles, ouais, ça c'est prendre acte des rapports sociaux. Donc si à la fin, on donne un petit coup de pouce par une action affirmative, eh ben, ce n'est qu'un juste rattrapage. Et donc là, il va falloir arrêter de dire discrimination positive, parce que discrimination, en fait, qui c'est qui est discriminé dans la discrimination positive, ça sous-entendrait qu'on discrimine les hommes. Mais non, je veux dire, quand en informatique, par exemple, on est à 90%, 10%, ben, d'ici qu'on discrimine les hommes, on a un petit peu une marge de progrès. Hein. Et puis de toute façon, faut oser voir les choses en face. Quand je vais dans un amphi en informatique, où j'ai donc en gros 90, 10 ou 85, 15, si le jeu était fair-play, puisqu'il n'y a pas de cerveau rose et pas de cerveau bleu, je devrais être à environ à 50-50. Puisque ce n'est pas le cas, c'est qui les 30-35% d'hommes qui sont là grâce à une discrimination positive à leur faveur continue depuis la petite enfance. Et d'ailleurs, ces hommes-là seraient peut-être absolument enchantés, s'ils avaient eu de vrais choix ouverts, d'être ailleurs en informatique. Donc, à partir du moment où on prend acte qu'il existe des mécanismes qui produisent la division socio-sexuée des savoirs, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a des faire et des savoirs qui semblent évidents pour les garçons ou pour les filles, et tabous, infamants, inaccessibles pour l'autre sexe, et ben à partir du moment où on prend acte de cette chose-là, et ben il faut courageusement mettre en place des mesures qui permettent de rectifier le tir. Et lutter contre les stéréotypes, présenter des rôles modèles, parler de la science aux filles, ouais, tout ça est utile pour habituer l'esprit, pour culturellement changer les représentations. Mais il faut que les établissements prennent des mesures fortes. Alors, ça peut être le quota, c'est pas la seule solution. Changer les critères de recrutement, avoir une politique absolument ferme et intolérante envers les violences sexistes et sexuelles. Voilà, ça, c'est des mesures institutionnelles fortes qui pourraient permettre de changer la donne.
Merci. Merci beaucoup.
Voilà, encore une question par rapport à la formation des enseignantes et des enseignants. On voit bien qu'on touche là, quand on parle d'égalité, d'inégalité, au développement de la personne, à sa trajectoire de vie. Ce n'est pas toujours confortable pour les personnes qui sont en formation d'entendre. Et peut-être parfois, c'est même difficile de même commencer à être ébranlé et à remettre en question ce que nous avons intériorisé depuis tant d'années. Et je me demandais... quelles sont peut-être les modalités de travail que tu as pu explorer qui sortent du cours traditionnel, dialogué, qui permettent véritablement d'impliquer la personne et de commencer à la mettre en mouvement dans la mise en doute peut-être de ses convictions profondes?
Alors déjà, il faut se simplifier la tâche. Et pour se simplifier la tâche, ça commence par une position institutionnelle, c'est-à-dire le fait que je sois professeur. Ça me simplifie la tâche. Le fait que mon cours soit évalué, ça me simplifie la tâche. Le fait qu'il soit obligatoire aussi. C'est-à-dire, ça veut dire que l'institution dans laquelle je suis considère que mon sujet est suffisamment important pour être porté par une chaire professorale et que si on échoue à ma matière, on ne devient pas enseignant. Bah, mine de rien, on en pense qu'on en veut, mais mine de rien. Voilà. Donc ça, il faut que l'institution simplifie la tâche. Si c'est un cours fait à la sauvette par un chargé d'enseignement précaire facultatif, eh ben, c'est sûr que ça a une autre apparence que ce que je viens de décrire. Donc on a beau faire le cours aussi génial qu'il soit, si on n'a pas un peu l'institution derrière soi, on s'épuise. Et ça, c'est un grand problème des interventions sur le genre. Il y a des gens de super bonne volonté qui ont des idées géniales, mais qu'on les met dans un placard par la petite porte. Et ces personnes s'épuisent parce qu'au bout d'un moment, elles n'ont jamais la légitimité de ce qu'elles font. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on va aller raconter des choses qui vont heurter la personnalité des enseignants. Parce qu'évidemment, ils et elles ne veulent pas être égalitaires. Enfin, ils sont même là, en général, pour ça. Pour lutter, alors essentiellement... contre les inégalités scolaires, l'échec scolaire, éventuellement les inégalités de classe sociale, même si là aussi tous les enseignants et enseignantes n'y croient pas, mais ils sont là pour ça. Et là, on est en train de leur dire, alors en fait, tu sais pas, mais c'est pas ce que tu fais. C'est rude, il ne faut pas se cacher les yeux, c'est rude. Moi, je ne les attaque jamais frontalement avec ça. Je veux qu'ils fassent... enfin, leur analyse de leur posture, elle ne me regarde pas. Je n'ai pas envie de savoir quel enseignant égalitaire ou pas, ils étaient ou ils n'étaient pas avant. Ça ne me regarde pas. Je veux qu'à partir de maintenant, ils deviennent et elles deviennent des enseignants égalitaires. Donc déjà, je ne reviens pas sur comment vous faites mal. Ça ne me semble pas une bonne idée. Par contre, il et elle, il faut quand même qu'ils se rendent compte que dans les classes en général, dont possiblement la leur, mais en général, des choses se passent. Souvent, un déclencheur, c'est les questions de prise de parole en classe. Je suis allée dans des classes à Genève et j'ai fait des comptages. Donc je leur montre mes comptages. Donc, je suis allée chez vos collègues qui étaient futurs enseignants à l'IUFE comme vous. Et voilà ce que j'ai compté. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce que j'ai vu. Et puis aussi, il faut comprendre la pratique enseignante. C'est-à-dire, quand ces enseignants ou enseignantes me disent « Si je donne pas la parole aux garçons, ils me mettent la classe en l'air », c'est vrai. Voilà, faut pas leur dire « Oh, vous pourriez partager le... » Non, bah, c'est vrai. Si je donne pas la parole aux garçons... je suis obligée de les exclure, ou alors ils s'endorment sur la table, et quand ils sont dans le couloir ou en train de dormir, ils n'apprennent pas, c'est vrai. Voilà, il faut prendre acte des réalités du quotidien, de la vie des enseignants et des enseignantes. Et puis à partir de là, eh ben, il se trouve que des solutions, on en connaît, on les a. Il y a des gens qui ont expérimenté des techniques différentes, en parler avec les élèves, une technique de prise de parole d'une autre manière, des îlots bonifiés, enfin, des techniques pédagogiques autres, on en a. Donc, moi, je présente des techniques pédagogiques autres et je leur dis, piochez là où vous vous sentez à l'aise. Donc, je pense qu'essentiellement, il faut être pratique quand on est en formation des enseignants. Il ne faut pas être culpabilisant parce que qu'est-ce qu'on aime être culpabilisant envers les enseignants, hein? Oh, on leur balance tout. Ils doivent corriger tous les défauts de la société et en même temps produire la société de demain qui doit être un peu pareille que la société d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, clairement, ils en prennent suffisamment comme ça. Donc... et les laisser cheminer tout seuls. Et non, enfin, j'ai des collègues qui me disent, moi j'ai souvent des gens à la fin du cours, ils viennent me voir pour me raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le cours, ma vie, mon couple, mes enfants. Moi ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais parce que Je parle de pratique enseignante, je parle de gestes professionnels et je ne leur parle pas d'eux et pas d'elles. Je ne les psychanalyse pas. Leur vie, entre guillemets, ne m'intéresse pas. C'est leur métier qui m'intéresse. Ça permet de mettre un peu de distance par rapport à cette question vraiment malaisante. Et puis après, bah, y a quand même des, pour le coup, il y a des études qui percutent. Celle dont je parlais tout à l'heure sur les enfants qui pensent que les élèves très très intelligents, c'est des garçons et celles qui ont des bonnes notes, c'est les filles. Quand on est enseignant, ça percute. Les exemples de menaces du stéréotype, ça agite. Est-ce que je mesure la compétence ou le sentiment de compétence? Mais je veux mesurer quoi? Ben, la compétence, évidemment. Et puis, il y a des activités aussi où on les fait travailler sur leur propre représentation. Je leur fais discuter entre eux, en gros, de leur représentation du féminin et du masculin. Et là, ils se rendent compte qu'eux, ben, ils sont assez au clair sur ce qu'ils en pensent, mais que c'est pas forcément la même chose que pense la personne en face, jusque-là tout va bien, mais que jamais personne met les choses sur la table en disant « Alors, quand je dis féminin, voilà ce que je veux dire. Alors que quand je dis masculin, voilà ce que je veux dire. » Personne ne met les choses sur la table. Donc on s'échange du féminin et du masculin, alors que personne ne sait de quoi on parle, si ce n'est des stéréotypes en jeu dans la société. Donc quand ils se rendent compte de ça aussi, eh ben, ils commencent aussi à se rendre compte du côté factice et construit de ces représentations. Et puis après, l'avantage, c'est qu'on a maintenant suffisamment de matériel attractif pour travailler l'égalité. C'est-à-dire que c'est bien joli d'aller déconstruire, et puis après, on laisse tous les Legos en morceaux par terre, et on leur dit, allez, débrouillez-vous, hein, faites votre cours. Ben non, on peut reconstruire. Et même s'ils sont plus ou moins convaincus, ben avec du matériel qui va faire le boulot correctement, ben, quitte à prendre du matériel, autant prendre un matériel qui peut leur permettre de faire un boulot égalitaire. Moi, je ne cherche pas la perfection, je ne cherche pas l'enseignant, l'enseignante parfaite qui va tenir tous les bouts de ma toile de l'égalité. Mais déjà, l'exercice que je leur fais faire, c'est on se raconte des récits de ce qui se passe en classe, avec la toile de l'égalité sous les yeux, et puis quand il y a un truc qui ne se passe pas, on le raye. Alors, on ne présuppose pas, on ne cherche pas ce qu'on fait bien, on suppose que tout ce qui n'est pas raconté est bien fait. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui est raconté qui manifestement va à l'encontre d'une des dimensions, par exemple, utiliser une langue inclusive, ah ben non, on ne l'a pas fait, bon, on raye. Mettre en visibilité les groupes socialement dominés, ah ben il n'y avait que des mecs dans mon descriptif de maths, hop, on raye. Et une fois qu'on a fini de rayer, on se dit, ah ben ouais, là, là et là, c'est vrai que je pourrais faire mieux. Donc c'est assez pratique en fait, ma manière de m'y prendre, parce que je ne m'intéresse pas à ce qui bouge à l'intérieur, je ne m'intéresse pas. Alors, c'est un peu exagéré quand je dis ça, mais on peut être sexiste et faire un cours égalitaire. Bon, ce n'est pas l'idéal, hein. Je préférerais ne pas, mais en soi, ce n'est pas mon propos. Moi, je veux que les gens fassent des cours égalitaires, et tant mieux si ça les fait bouger en tant qu'individu.
Et donc là, on voit que tu te cibles sur les pratiques à développer. On voit bien que ces pratiques à visée égalitaire, elles touchent tant la facette égalité fille-garçon que d'autres facettes. Dans quelle mesure tu peux imaginer qu'on puisse se retrouver entre enseignantes et enseignantes, formateurs, formatrices, avec des champs disciplinaires qui sont voisins, mais différents quand même. Dans quelle mesure on pourrait imaginer des synergies pour agir ensemble? Parce qu'on parle beaucoup d'une lecture intersectionnelle, oui, d'accord, mais nous, dans nos formations d'enseignantes et d'enseignants, on n'a pas la possibilité de suffisamment développer un socle commun dans chacune des disciplines avant de mener une analyse croisée. Donc, comment faire quand même pour amener ces futures enseignantes et enseignants à lire ces réalités qui sont complexes et qui mêlent les différentes formes de discrimination?
Alors, tu vas me dire que je suis en train de vendre mon modèle, mais je vais vendre mon modèle. Quand j'évalue mes enseignants enseignantes du primaire, à la fin, je leur demande de monter un projet d'établissement. C'est-à-dire, à eux tous dans la classe et à eux toutes, ils ont traité un petit bout. Il y en a qui ont traité la lutte contre l'homophobie, il y en a qui ont traité le temps de parole en classe, il y en a qui ont traité la fête des mères, l'occupation du préau. Ils ont tous traité un petit bout. Et chacun, en traitant un petit bout, ben, ils ont adressé telle ou telle dimension de la toile. Bon, ben, si on met tous ces petits bouts ensemble, on dégage des grandes tendances, exister singulièrement, exister collectivement, avoir un pouvoir sur les savoirs. Donc on dégage des grandes tendances et je leur dis, faites une lettre factice à votre chef d'établissement en lui expliquant les points qui vous semblent saillants et la manière dont vous voulez les adresser. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'activités qui ont été développées par des collègues permettant d'adresser ces dimensions. Donc en fait, c'est très difficile de se retrouver tous ensemble pour travailler tous ensemble et pour penser collectivement les solutions. Par contre, on peut les penser de manière éclatée et puis ensuite se regrouper pour voir à quel endroit on se recoupe, à quel endroit on ne se recoupe pas, qu'est-ce qui manque, et articuler un projet d'établissement.
Bien, merci beaucoup pour ce moment d'échange très fécond. Je crois qu'on repart avec pas mal d'idées dans notre mallette. Et puis, eh bien, au plaisir de te rentendre ou de te lire.
Mais avec plaisir. Au revoir.
Égalité et diversité, paroles libérées, regards transformés. Un podcast de l'instance Égalité de la HEPVO.